Après 2 semaines d'échanges, de discussions et de débats au sein de l'Assemblée nationale, la proposition de loi relative à la fin de vie passera au vote ce mardi. Un texte, on va le rappeler, en quelques mots, divisé en deux. Le premier consacré au développement des soins palliatifs. Le second sur les conditions d'accès à l'aide à mourir. Plusieurs conditions sont fixées pour en bénéficier. Avoir au moins 18 ans, être français ou résident étranger régulier stable en France, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, être victime d'une souffrance physique ou psychologique réfractaire au traitement ou insupportable, et encore être apte à manifester la volonté de façon libre et éclairée. Le patient devra faire une demande par écrit ou par tout autre mode d'expression adapté à sa capacité. S'il ne peut pas se déplacer, le médecin devra se rendre chez lui ou dans le lieu où il est pris en charge pour recueillir sa demande. Et puis la loi rétablit aussi le principe d'une auto-administration de la substance létale. Ce sera donc à la personne de s'injecter le produit, sauf si elle n'est pas en capacité de le faire. Dans ce cas, un personnel soignant pourra l'administrer, et pour ceux refusant, une clause de conscience est prévue comme pour l'avortement. Pour en parler ce matin avec nous, Henriette Martinez, bonjour.
Bonjour.
Députée des Hautes-Alpes de 2002 à 2012, sur les bancs de l'Assemblée nationale, on vous a souvent entendu défendre la cause de l'aide active à mourir et déposer aussi des textes. Tout d'abord, est-ce que ce mardi, la France s'apprête, selon vous, à faire un bond ?
Écoutez, c'est un moment très attendu. Pour ma part, je milite pour le droit de choisir sa mort depuis 1998. Donc, comprenez bien que je me réjouis que ce texte arrive enfin en discussion après de longues péripéties. Je précise que je vais déposer moi-même en 2004 et en 2008 deux propositions de loi, une sur la délivrance volontaire en fin de vie et l'autre sur l'aide active à mourir, qui en fait avait le même objectif que le texte qui est en train d'être voté. Je me réjouis, mais j'attends que le texte soit promulgué pour me réjouir complètement, car il y a eu déjà tellement de vicissitudes, et puis vous le savez, le vote de l'Assemblée n'est pas le seul vote qu'il faut obtenir, et je pense qu'on n'est pas encore au bout de cette discussion parlementaire. C'est néanmoins une avancée significative pour notre société et une avancée qui correspond à une très forte demande d'une majorité extrêmement large de Français. Je ne sais plus les chiffres aujourd'hui, mais c'est plus de 80% qui demandent ce texte depuis des années.
Les députés des Alpes du Sud ont déjà donné leur avis sur Alpe 1 quant à cette question. Dans les Alpes-de-Provence, Sophie Vaginéry-Court de l'Union des droites annonçait voter contre. Je vous propose d'écouter sa déclaration.
On doit protéger la vie et on doit, dans une société civilisée, accompagner les personnes pour lesquelles il y a des souffrances qui sont telles qu'elles doivent être accompagnées pour abréger leurs souffrances, sachant que aujourd'hui la loi prévoit déjà cela, quoi. On a déjà les soins palliatifs.
Alors est-ce qu'il faut opposer soins palliatifs et aide à mourir ?
Absolument pas. Ce sont deux choses complètement différentes et complémentaires. Les soins palliatifs, c'est un accompagnement de la fin de vie qui est utile, nécessaire, indispensable pour tous les gens qui sont en fin de vie.
Mais pas assez développé en France.
Soins palliatifs. Écoutez, il n'y avait pas besoin d'une loi pour développer les soins palliatifs. Il y a plus de 20 ans que nous avons une unité de soins palliatifs à l'hôpital de Gap. Je suis bien placée pour le savoir puisque c'est moi qui l'avais obtenu de Xavier Bertrand, qui était alors ministre de la Santé, pardon, et qui, lassé de m'entendre réclamer une loi sur la fin de vie, m'avait accordé cette unité de soins palliatifs qui fonctionne et qui est tout à fait utile, nécessaire, indispensable. Mais ça ne s'oppose pas à l'aide à mourir. On peut très bien vouloir finir en soins palliatifs, mourir à petit feu, accompagné du confort nécessaire pour ne pas souffrir, encore que il y a des exceptions. Et on peut aussi choisir de raccourcir cette étape et de mourir tout de suite quand on sait que son pronostic vital est engagé et que la souffrance, qu'elle soit physique ou morale, est trop forte. Quand aussi ses convictions personnels font que l'on considère que ce temps de vie enlève quelque chose à ce qui a été notre vie et ne correspond pas au choix libre que nous avons fait tout au long de notre vie. Le discours de Sophie Vaginet est un discours totalement politique qui veut satisfaire un certain électorat. Ce n'est pas un discours réaliste et je lui souhaite de jamais avoir à vivre la fin de vie de ses proches dans certaines conditions qui la feraient peut-être changer d'idée.
Quel électorat ?
Bah, écoutez, moi je le dis tout à fait tranquillement, je suis une femme de droite. Bon, quand j'ai déposé mes propositions de loi, j'étais seule contre tous pratiquement. C'était la gauche qui me soutenait, et encore pas unanimement.
Vous l'avez bien vécu ?
Donc je sais. La fin de vie ?
Non, vous l'avez bien vécu, quoi, que la gauche vous soutienne.
Ah oui, non, je croyais que vous me demandiez si j'avais vécu des fins de vie dans mon entourage. Malheureusement, oui, mais ce n'est pas ce qui a motivé mon engagement, j'étais engagée avant. Non, moi j'ai souvent vécu très bien à l'Assemblée nationale, d'être un peu seule dans mon camp à défendre certaines convictions, mais dès lors que l'on croit quelque chose, on est là pour le défendre, tout en s'en expliquant auprès de ses électeurs, bien sûr. Mais oui, j'ai déjà vécu cette solitude du législateur et des prises de position qui peuvent déranger. Je sais que c'est la droite conservatrice qui est aujourd'hui contre cette loi et qui considère que les soins palliatifs répondent à tout. Non, les soins palliatifs existent, ils ne répondent pas à tout. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on a fait une loi, on a voté une loi pour créer des soins palliatifs. C'est pour noyer le poisson, tout simplement. Parce qu'écoutez, il y a 20 ans, on a créé une unité de soins palliatifs à Gap, donc ça existe depuis longtemps, des soins palliatifs. On n'avait pas besoin d'une loi pour développer les soins palliatifs. C'est une volonté gouvernementale de développer ou pas les lits de soins palliatifs. Ils sont des lits qui coûtent cher, car ils nécessitent beaucoup de personnel, même s'il n'y a pas besoin d'un plateau technique important. Et donc, si le gouvernement veut créer des lits de soins palliatifs dans tous les hôpitaux, il peut le faire, il n'a pas besoin d'une loi pour ça.
Ce que vous dites, c'est que la première partie de la loi, c'est pour rassurer, finalement.
Bah, c'est pour rassurer les gens, mais ça ne sert à rien. On légifère sur quelque chose qui existe. Voilà. Donc, dire qu'on va créer des lits de soins palliatifs, bah, oui, c'est très bien ancré. Et je vous dis, j'en avais obtenu moi-même pour notre département. Donc, je ne m'y oppose pas du tout. Mais point n'était besoin de voter une loi pour cela. Par contre, légiférer sur la fin de vie, c'était indispensable et je suis ravie que cela soit en train de se faire. Mais cessons d'opposer les deux. Ouais. Les gens qui opposent les deux n'ont rien compris, n'ont rien vécu.
La loi Claeys-Leonetti avait déjà enclenché certaines choses. Et on parlait notamment des directives anticipées. Là aussi, on revient sur les directives anticipées en disant, les directives anticipées ne sont pas assez utilisées. Alors, on va préciser pour les auditeurs, les directives anticipées, c'est une déclaration écrite, rédigée pour préciser les souhaits liés à la fin de vie. Donc, on précise par avance la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou des actes médicaux.
Voilà, directives anticipées. Une personne de confiance, voilà. Au moins, ou plusieurs, chargée de faire chargée de transmettre nos volontés en fin de vie si on n'est plus en état de le faire. Donc, ce recul sur les directives anticipées, pour moi, est extrêmement pénalisant, car il y a des personnes qui, toute leur vie, comme moi, ont milité pour une fin de vie digne, choisie, et je mesure le sens que je mets dans le mot digne, il ne s'agit pas pour moi de porter un regard sur la dignité des autres personnes, mais sur l'idée que je me fais de ma propre dignité en fin de vie, et de vouloir finir sans que mon corps et mon esprit se dégradent au-delà d'une certaine limite. Donc si je ne suis plus en état un jour de l'exprimer, eh bien ma famille, mon fils, sait très bien qu'il est ma personne de confiance. Je voudrais qu'il puisse exprimer ma parole. Et ça ne serait pas un abus de confiance, ni de pouvoir, ni la volonté de me tuer, que de faire respecter ce qui a été ma volonté toute ma vie. Donc, la reculade sur les directives anticipées me paraît très préjudiciable au texte qui est actuellement en train d'être voté. Voilà.
Vous parliez justement de liberté individuelle. Ça aussi, il en a été beaucoup question, la liberté individuelle, le droit primordial de choisir sa fin de vie, qui entacherait aussi une autre liberté, celle des médecins, notamment. Alors, j'ai précisé en amont quand même qu'il y aura une clause de conscience qui sera votée. Mais par exemple, La Croix écrivait ce lundi que beaucoup de soignants vont faire appel justement à cette clause de conscience. Vous pensez que le personnel médical aujourd'hui est contre ce texte ?
Non, je ne pense pas que le personnel médical soit majoritairement contre aujourd'hui. Pardon. La preuve, c'est qu'il pratique des euthanasies dissimulées dans les hôpitaux de façon courante. Et vous faisiez tout à l'heure référence à la loi Claeys-Leonetti, mais avant la loi Claeys-Leonetti, il y a eu, quand je siégeais encore à l'Assemblée nationale, la loi Leonetti tout court, Leonetti seule, qui est une loi d'hypocrisie totale, qui fait croire aux malades qu'ils vont choisir. En fait, ils ne choisissent rien. C'est le médecin qui décide. La loi Leonetti a été faite pour que les médecins qui, en fait, accélèrent le processus de fin de vie pardon, par la sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'on vous met sous morphine et puis on vous laisse mourir sans vous tuer, entre guillemets. Mais on met en place un système qui vous aide à mourir. C'est une grande hypocrisie parce que ce sont les médecins seuls qui en décident et que le malade n'a pas son mot à dire. Donc, dans la loi, aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit la volonté du malade qui s'exprime et pas celle des médecins. Et c'est là que ça doit être une loi de liberté et que les médecins, eh bien, s'ils ne veulent pas pratiquer cet acte, comme les médecins qui ne veulent pas pratiquer un avortement, puissent effectivement faire valoir une clause de conscience. Moi, je l'admets tout à fait, mais de grâce que l'on laisse à chaque individu le droit de choisir sa vie. Toute notre vie, nous faisons des choix. Toute notre vie d'adulte, en tout cas. Et je ne vois pas pourquoi ce dernier choix, qui est celui de partir et qui nous concernera tous un jour ou l'autre, que l'on en soit conscient ou pas, et quelles que soient les circonstances de notre mort, bien sûr, parce qu'il y a des circonstances où ben, on n'a rien à dire, mais il y a d'autres circonstances où on peut avoir le choix. Ce dernier choix doit nous être laissé, et je ne vois pas ce que ça enlève aux médecins, ce que ça enlève aux soignants, ce que ça enlève aux religieux, parce que derrière tout ça, il y a des convictions souvent basées sur sur des convictions religieuses tout simplement, et qui font dire que notre vie ne nous appartient pas. Ben non, je suis désolée, et pourtant je suis moi aussi quelqu'un qui a des convictions religieuses, mais mes convictions religieuses sont une chose, mes convictions de vie en sont une autre, et je ne crois pas faire du tort à qui que ce soit en décidant de ma propre mort si je décide un jour que le moment est venu de m'en aller. Et on y passera tous. Et donc, les gens qui appliquent à cette loi une considération politique, religieuse, philosophique, qui leur est propre pour empêcher les autres de faire ce qu'ils veulent, cela ne me paraît pas être de la liberté, ni de la relever de la liberté, ni de la démocratie.
Pensez-vous que l'on aurait pu aller plus loin, et pensez-vous que l'on pourra aller plus loin, puisque c'est un premier pas pour certains, mais sauf qu'il y a des questions qui restent en suspens. Par exemple, il y a le père de Maxime Danielou, un jeune homme qui est plongé dans un coma irréversible depuis 20 ans. Il ne pourra pas en bénéficier, puisque comme je l'ai précisé, pour bénéficier de ce droit à l'aide à mourir, il faut pouvoir manifester sa volonté. Il ne le peut pas, et son père demande que la loi s'élargisse.
Nous avons déjà eu des cas depuis des années. Le premier, c'était Vincent Humbert, dont la maman réclamait à corps et à cri un droit de mourir pour son fils. J'avais connu Marie Humbert, qui est maintenant décédée. Je l'avais même invitée à tenir un débat à Gap, une conférence suivie d'un débat à Gap. Il y a des cas auxquels la loi ne répondra pas. Et oui, il faudra aller plus loin, parce qu'il y aura beaucoup de frustration. Le respect des volontés anticipées me paraît primordial. La question des personnes qui ne sont plus conscientes, mais dont le corps est devenu, enfin, je dirais, qui sont emprisonnées dans un corps qui n'est pratiquement plus en vie, cette question-là se pose vraiment. Est-ce qu'il faut les aider à partir, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer, dès lors qu'ils sont dans un état de mort cérébrale, par exemple, ou autre? Donc oui, il faudra aller plus loin. Et je le dis sans me cacher, je pense que la question des mineurs se posera aussi.
C'était ma question, justement.
Dans d'autres pays.
Exactement, oui. C'était ma prochaine question, oui. Puisque je l'ai dit aussi, oui. Ça s'applique dès lors que l'on est majeur. On peut en faire sa demande. Mais donc, quand on est mineur, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut estimer qu'un enfant peut en faire la demande ?
Il y a des enfants qui en font la demande. Il y a des enfants en fin de vie qui ont un courage, une dignité exemplaire et qui disent qu'ils veulent mourir. Cela existe. Alors on peut dire que ce sont des enfants, ils ne savent pas. Vous savez, je pense que quand un enfant passe par l'épreuve terrible d'une maladie totalement invalidante, totalement qui les prive de tous leurs moyens de vivre une vraie vie d'enfant. Lorsque ces enfants-là expriment quelque chose, ils ont une maturité, une réflexion sur la vie supérieure, je pense, à beaucoup d'adultes. Donc, je ne dis pas qu'il faut le généraliser tout de suite, je ne dis pas qu'il faut y accéder dans n'importe quelle circonstance, mais je pense que oui, la question se posera un jour ou l'autre, comme elle s'est posée dans d'autres pays.
Mmh. Henriette Martinez, vous le disiez, moi je veux choisir de ma fin de vie, cette question de la fin de vie, vous avez parlé des directives anticipées, cette question de la fin de vie, pour vous aujourd'hui, elle est fixée?
Ah ben pour moi, elle est fixée depuis 30 ans. Je vous dis, j'ai adhéré à la DMD en 1998. J'ai déposé 2 propositions de loi au cours de mes 3 mandats parlementaires. Et j'ai tenu des conférences un peu partout en France à la demande de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. À une époque où j'étais quand même très isolée dans mon camp, c'est-à-dire dans le camp de l'UMP à l'époque, donc des Républicains aujourd'hui. Et ce n'était vraiment pas la tendance majoritaire de mes collègues. Donc, je vois que les choses évoluent, je m'en réjouis, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est une conviction profonde, intime, concernant ma propre vie. Et je ne dis pas que tout le monde doit faire de même, je dis simplement que les lois doivent être là pour permettre, tout en réprimant si on va trop loin, mais de la même façon que je n'ai jamais recouru à l'avortement de ma vie, mais je ne conteste pas aux autres le droit de le faire. De la même façon que je ne vais pas à la chasse, mais je n'interdis pas aux gens de chasser, et plein d'autres exemples qui pourraient être pris, si on est dans une société de liberté, on doit pouvoir choisir les chemins de notre vie et le chemin de notre mort aussi.
Merci beaucoup Henriette Martinez d'avoir accepté l'invitation d'Alpin, je rappelle, hein, députée des Hautes-Alpes au sein de l'Assemblée nationale, et vous l'avez très justement précisé que vous avez déposé plusieurs textes en matière de fin de vie. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Alpin.
Je vous en prie.